Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Et aujourd'hui, je vous propose un voyage au royaume de la fée verte, avec son univers de séduction et de déraison, de rencontres improbables et de poésie, où l'on croisera aussi bien Dracula que l'homme à la tête de chou, aussi bien Van Gogh, Baudelaire et Oscar Wilde que Colombine et Arlequin, le tout en frisant l'apocalypse. Rendez-vous conte. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour Ghislain.
Bonjour.
Alors, quelle est cette fée verte dont je parlais à l'instant? Et où peut-on la rencontrer?
Ah, bah on peut la rencontrer au musée de l'Absinthe, directement, à Auvers-sur-Oise. Puis on peut la rencontrer dans un verre d'absinthe aussi, la fée verte. Hein.
Absolument, oui.
On en reparlera, ils sont déjà en train de savourer un bon petit verre d'absinthe. Voilà. Oui, donc l'absinthe, d'abord, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'absinthe, c'est une boisson typiquement du 19e siècle. Elle a été créée par Henri-Louis Pernod en 1798 à Couvet en Suisse. En fait, c'est la mère Henriot qui l'a créée d'abord par un élixir. Et Henri-Louis Pernod, lui, en a fait il a distillé pour la première fois pour en créer une absinthe.
Oui, à la base, c'est quelque chose de médicinal. La plante, c'est quelque chose qui est à base de plantes. Donc la plante est là pour soigner. Après, effectivement, ça a évolué à autre chose. Mais...
Oui, c'est bien notre Pernod, on va dire.
C'est ça.
Oui, c'est le même Pernod, bien avant que le Pernod existait, qui a eu d'abord l'absinthe. D'accord. Et donc, comme disait Ghislain, c'est d'abord une plante, en effet. La plante d'absinthe, la grande absinthe, qui pousse notamment dans les régions montagneuses, entre 800 et 1000 mètres d'altitude, pardon, mais elle pousse également en plaine. C'est une plante qui permet, en tisane ou en sirop, pour guérir, qui soigne bien les fièvres. C'est un excellent vermifuge. Qui soigne les maux d'estomac également. Et pour les femmes, elle permet de réguler les menstruations. Donc elle est vraiment assez intéressante. Mais en alcool, elle n'a pas les mêmes propriétés. Elle ne va pas vous faire que du bien. À bonne dose, si vous en prenez un petit peu, et si c'est une bonne absinthe, elle est très bonne. Mais en revanche, si vous en prenez un petit peu trop, elle pourrait être un petit peu plus pernicieuse.
Alors, l'absinthe pousse dans le jardin de votre musée d'Auvers.
Ouais.
Alors ça, c'est pas mal. Et il y a d'autres plantes aussi qui s'ajoutent pour la composition de l'absinthe pour l'apéritif.
Oui, parce que c'est un mélange de beaucoup d'autres plantes. Alors, pour certaines recettes, il y a de la coriandre, il y a de l'anis étoilé, il y a de la mélisse citronnée.
De l'hysope.
De l'hysope.
Et bien sûr.
De la sauge.
La sauce, non, il n'y en a pas vraiment. Mais il y a de la grande absinthe et de la petite absinthe.
Ah oui, c'est ça.
Qui composent la majorité de l'absinthe. Après, chaque distillateur a son petit secret. Donc, on ne sait pas toutes les recettes. Il peut y avoir de la tanaisie également. Mais toutes ces plantes-là font l'absinthe quand on la fait macérer pendant 24 heures. On fait sécher les feuilles d'abord. On fait macérer tout ça. On fait chauffer. Puis, ça passe dans un réfrigérant qui, après, vous donne l'alcool d'absinthe. Et cet alcool-là... a un goût plutôt anisé. La plante de l'absinthe est amère, mais dans la distillation, elle n'est plus amère. C'est vraiment une boisson assez douce, mais assez anisée. Un petit peu comme le Pernod, on va dire. Mais avec beaucoup plus de goût, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus délicate, et une vraie saveur de plante.
Oui, oui, c'est surtout ce qu'on ressent, effectivement, le goût de tête, si on compare ça à un parfum, parce que très souvent, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment l'anis qui arrive en premier, mais on reste en bouche une saveur très plantureuse, avec vraiment un bon goût de plante qui reste. Oui.
Alors, pourquoi la fée verte?
Alors, pourquoi la fée verte? Tout simplement parce que cette boisson, donc très populaire au 19e siècle, a même failli supplanter le vin. On en parlera sans doute tout à l'heure pour d'autres raisons, mais on l'appelait fée verte tout simplement parce qu'elle est assez verte quand elle est pure. Elle peut avoir des tons un peu jaunes ou marrons, mais principalement verte, surtout à l'époque. Et quand on met de l'eau dedans, elle se trouble, mais il y a un effet un peu magique. C'est la première boisson à l'époque qui se troublait, il n'y avait pas de pastis. Donc quand on a fait, quand on met de l'eau avec le précipité, ça se trouble. Et alors là, les gens sur les boulevards parisiens se sont dit oh, c'est magique, c'est formidable. Et la couleur change, c'est vert, c'est beau. Et du coup, la fée verte, puisque c'est quelque chose de magique.
Alors magique aussi, je dirais, le rituel pour la consommation. Alors là, je m'adresse au barman en chef.
Bon, on est les deux barman. D'accord. Justin, tu veux peut-être parler de...
Le rituel.
Le rituel.
Alors le rituel, c'est d'abord une fontaine qui est en elle-même... une œuvre d'art parce que c'est très très joli, à 2, 3, 4 robinets. En fait, on remplit cette fontaine d'eau très fraîche, on rajoute éventuellement des glaçons. Et on va prendre le verre à absinthe, qui est déjà lui-même particulier, avec une dose, en fait, dans le pied du verre à absinthe. Il y a une petite boule au bas qui forme la dose exacte pour doser l'absinthe. On met sa dose d'absinthe qui va tomber dedans. On va ajouter une cuillère trouée, la fameuse cuillère à absinthe. On va déposer un demi-sucre, car l'absinthe en elle-même n'est pas sucrée, c'est un spiritueux, donc ce n'est pas naturellement sucré. Et donc on va ajouter ce demi-sucre pour pouvoir justement faire, avec l'eau fraîche qui va tomber sur le sucre, faire ressortir toutes les saveurs des plantes.
Et c'est très réussi, ça marche.
Bah, ça marche, et à la fois, c'est ce qu'on dit très souvent, c'est que pour apercevoir la fée verte, il faut en voir plusieurs, mais ça peut commencer par là déjà.
Mais il y a un côté très hypnotique en fait. Il y a les gouttes à gouttes qui tombent sur le sucre, qui tombent après dans l'absinthe. Il y a un côté un peu rituel, un peu comme cérémonie du thé au Japon, où il y a vraiment un joli rituel. Et quand vous avez des fontaines avec 6 verres autour, avec des absinthes de couleurs différentes, les gens sont là à regarder. Il y a une vraie
fascination.
Fascination et une vraie ambiance 19e siècle.
Pour le coup, on a vraiment l'impression d'être au spectacle, mais c'est vrai que les gens aiment beaucoup ce moment-là, parce que c'est un moment aussi, et nous, ça nous touche beaucoup, c'est un moment de partage et de convivialité. C'est un, de toute façon, des rôles d'un bar, et le nôtre en particulier. Oui.
Alors, l'objet magique entre tous, c'est la cuillère, la fameuse cuillère à absinthe. Oui. Et d'ailleurs, alors, dans mon introduction, je parlais de Dracula.
Oui.
Dracula buvait pas de l'absinthe quand même ou quoi? Mais en tout cas, quel rapport peut-être.
Alors, en tout cas, dans le film de Francis Ford Coppola qui date de 92, enfin la date de sortie, justement, la production a contacté Marie-Claude Delahaye, qui est la propriétaire du musée, pour demander une cuillère. Et il se trouve que c'est cette cuillère qui a été le début de la collection de Marie-Claude. Elle a trouvé cette cuillère
au marché
par hasard. Voilà.
Incroyable.
Et du coup, ça a été le déclic de l'aventure, son aventure au musée et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui aussi.
C'est ça, pour la petite histoire, Marie-Claude a trouvé donc cette petite cuillère au marché aux puces en 1981. Et elle a demandé au brocanteur, en tout cas au vendeur, mais pourquoi une cuillère avec des trous? Qu'est-ce qu'on mange avec? Ça sert à quoi? Et elle a répondu à sa question depuis. Et donc, elle a créé cette collection immense dans le musée, dont cette cuillère qui donc, a été demandée par l'accessoiriste de Francis Ford Coppola pour le film Dracula. Elle apparaît, bon,
une seconde,
mais elle est dans le film avec Gary Oldman et Winona Ryder.
Et elle est tenue par Gary Oldman, s'il vous plaît.
Et on peut la voir au musée.
Exactement, dans une vitrine.
Voilà, super. Alors, le musée, justement, c'est dans une maison typique d'Auvergne. Donc, ce n'est pas forcément très grand. Le musée comporte 5 salles.
C'est ça, exactement.
Mais sur 2 étages. Mais alors, il est extrêmement riche. Qu'on y trouve?
Il y a une collection impressionnante. Marie-Claude a fait 40 ans de recherche, de collection. Vous avez en fait toute l'histoire de l'absinthe, en fait, en partant de la plante, jusqu'à la conception de l'alcool, la fabrication de l'alcool. Et puis, à travers toutes les œuvres d'art qu'il y a, je vais en parler juste après, vous avez toute l'histoire de l'absinthe. Vous avez comment celle-ci était utilisée pendant la guerre d'Algérie pour la conquête de l'Algérie en 1830, pour les militaires contre la dysenterie, la malaria. Et puis après, vous avez la conquête du milieu bourgeois à Paris, les boulevards parisiens. Puis après, la descente aux enfers avec l'ouverture de l'absinthe aux ouvriers. Et en même temps, vous pouvez trouver des œuvres comme des affiches d'époque de Capiello, qui était un grand affichiste de l'époque. Vous avez également tout ce qui est objet d'artisanat. Vous avez des fontaines, vous avez des brouilles absinthes, vous avez des pyrogènes. Donc les pyrogènes, c'est là où on mettait les allumettes pour gratter sur les stries et on pouvait allumer son cigare. Vous avez également des tableaux, des tableaux de maître. Vous avez
des objets en ouraline.
Des objets en ouraline.
L'ouraline.
Alors, l'ouraline, c'est très intéressant. C'est du verre mélangé avec de l'uranium. Donc, c'était très, très populaire au 19e siècle. Alors, vous risquez rien en venant au musée.
Oui,
pas de
problème. Ce sont des pièces de musée, justement. Donc,
ce sont des pièces de musée. En revanche, à l'époque, à la fabrication, c'était très dangereux. C'est de l'uranium, tout de même. Et on montre avec
une lampe à UV.
Une lampe à UV, en fait, l'uraline brille dans la nuit.
Ouais. La fée verte.
Et la fée verte, exactement. C'est du verre très, très fluorescent. Et c'est très joli à voir. Mais au 19e, c'était très populaire. Sauf qu'il n'y avait pas encore Marie Curie. Quand Marie Curie est arrivée, peut-être qu'on va arrêter l'ouraline, a-t-elle dit. Donc, du coup, l'ouraline est totalement interdite à la fabrication maintenant. D'en avoir, il n'y a pas de problème, mais c'est interdit à la fabrication.
Absolument.
Et pour en revenir aux œuvres d'art, vous avez également dans le musée une eau-forte de Manet. Vous avez une compression de cuillère à absinthe de César.
Alors ça, c'est un truc incroyable.
Elle est intéressante. Hein.
Ah oui, oui. Parce que c'est vraiment ce qu'il fait traditionnellement, quoi. Avec combien, une centaine de cuillères?
Une centaine de cuillères, oui.
C'est incroyable.
Et toutes d'avant 1915, ouais, puisque ouais, ouais. 1915, c'est l'interdiction de l'absinthe. Et du coup, il a gardé toutes les cuillères qui étaient d'époque, donc avant 1915.
Alors, l'absinthe était très populaire, en particulier chez les impressionnistes. Hein, puisque Manet a représenté effectivement une toile qui a fait scandale qui s'appelait Le Buveur. Parce qu'on voyait un clochard, hein, je crois, qui ouais. effectivement buvait comme ça.
Ouais.
Alors ça, c'était assez scandaleux pour l'époque, bien sûr. Edgar Degas aussi a fait un tableau qui s'appelle L'Absinthe. Mais alors, évidemment, puisqu'on est ouvert, il y a Van Gogh.
Oui.
Qui a fait presque. Alors, c'était assez intéressant parce que il a décrit, et ça, c'est incroyable, les eaux du Rhône quand il était à Arles pendant quelques temps, en disant qu'elle avait les couleurs de l'absinthe.
Tout à fait.
Elle lui décrivait les couleurs.
Il le dit clairement dans une lettre à son frère.
C'est ça.
Le Rhône, elle a couleur verte absinthe, et ça, c'est très intéressant.
Alors, le rôle des affiches publicitaires, c'était un peu l'âge d'or, quoi, des affiches publicitaires. Et elles sont incroyables parce que, bien sûr, elles sont là pour séduire, mais elles reprennent tous les codes sociaux et culturels. Par exemple, il y en a une qui est très belle, qui m'a fait penser, moi, à la pièce de Molière, Le médecin malgré lui.
Oui.
On voit un médecin d'époque qui tient, enfin, une jeune fille qui tient la main de ce médecin, et d'un autre côté, elle tient un verre d'absinthe.
Oui.
Ça m'a fait vraiment penser au médecin malgré lui.
Oui, tout à fait.
Ou Sganarelle, le faux médecin, conseille au père d'une fille qui est devenue soudainement muette de lui faire boire du vin.
Oui,
pour
oui.
qu'elle retrouve la parole.
Et ouais. dans cette affiche, vous avez écrit juste en dessous « Bois donc, tu verras après ouais. ». C'est cette dame qui dit au médecin « On verra après, ouais. bois un verre d'absinthe, ouais, viens ça. Avec moi ouais. », un côté un peu sulfureux, « et on verra après, on discutera ouais. de ta médecine ».
C'est ça, donc, ouais, c'est exactement ça.
Il y a un côté très intéressant. Et puis, il y a la représentation de la femme et de l'homme dans la publicité de l'époque ouais. qui ouais. est très intéressante. Vous avez l'homme toujours avec un veston... Ouais. En bon point, avec des bagues, un grand sourire parce qu'il a toutes ses dents, il a la richesse, il a le pouvoir, donc la représentation de l'homme de l'époque. Et la femme, en revanche, est toujours assez... Elle est rousse, parce que les rousses, ce sont des libertines.
Ouais.
À l'époque, c'est ouais. comme ça qu'on imaginait les choses. Et elles sont toujours dans le côté un peu sensuel, ou en déshabillé. Il y a des volutes autour d'elles, elles sont très, très belles, très sensuelles. Donc la femme du côté érotique et l'homme du côté du pouvoir.
Voilà.
C'est le 19e siècle.
C'est clair et net.
Heureusement, on a fait des avancées dessus.
Oui, après, il ne faut pas oublier que, effectivement, sur toutes les, on va dire, en règle générale, sur les réclames, c'est ce qu'on disait à l'époque, sur l'absinthe, la femme est représentée comme, de toute façon, la tentatrice, celle qui va être la récompense suprême en dégustant l'absinthe. Il y a cette arrière-pensée qui est toujours omniprésente dans la représentation de la femme. Oui.
En même temps, celle qui peut faire souffrir, il y a une très belle affiche où on voit Pierrot, Colombine et Arlequin. Pierrot assistant à une scène de séduction entre Arlequin et Colombine qui, bien sûr, boivent un verre d'absinthe.
Bah oui, parce qu'Arlequin séduit Colombine grâce au verre d'absinthe. C'est le verre d'absinthe qui permet de séduire Colombine.
Alors effectivement, il y a une autre publicité de Pernod, justement, qui représente la vieille absinthe française, et donc où on voit un type qui, visiblement, est en tenue de chasse à cour, et qui, effectivement, ça représente, disons, l'aristocratie ou la haute bourgeoisie, tout y est. Et il y a aussi, alors vous parliez de la France coloniale, la conquête de l'Algérie, il y a une très belle affiche aussi où on voit un officier français... avec son pantalon rouge d'ailleurs qui allait causer autant de pertes en 1914 et en train d'offrir un verre d'absinthe à un chef musulman qui est là, très très belle affiche voilà. Et puis alors il y a aussi un petit peu des alors la France des bourgeois, vous l'avez dit hein, ces bourgeois avec le petit nœud papillon la chemise blanche et le monocle en train de voir son verre d'absinthe. Et puis l'absinthe, c'est aussi la consolation et l'inspiration des poètes.
Tout à fait, bien sûr.
Ouais.
Il y avait énormément de poètes qui buvaient de l'absinthe. Elle a été d'abord donc militaire, puis après bourgeoise. Et quand elle arrive à conquérir un petit peu Paris, parce qu'au départ, l'absinthe, pour resituer un petit peu, c'est une boisson locale. Hein, entre 1800 et 1830, on en boit dans la région de Pontarlier, dans le Jura et en Suisse, et dans le Doubs. Et puis petit à petit, grâce aux militaires qui vont arriver sur les boulevards parisiens pour boire un peu leur boisson favorite, elle va conquérir Paris. Et là, imaginez sur les boulevards Réaumur, Sébastopol, Boulevard de la République, ça sent l'anis de partout. Entre 17h et 19h, c'est l'heure verte.
De 7 à 9.
De 7 à 9. Tout le monde boit. Tout le monde boit de l'absinthe, ça sent. Et en même temps, les artistes vont s'accaparer cette boisson. Dans l'imaginaire collectif, elle va permettre la création. Bon, ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, ils vont s'en inspirer pour écrire des poèmes, pour faire des tableaux. Ils vont représenter ce qu'ils voient. Van Gogh va faire un tableau sur son verre d'absinthe devant lui en 1887. Mais il va y avoir Rimbaud qui va écrire sur l'absinthe, Baudelaire, tous ces poètes, tous ces...
Oscar Wilde,
bien sûr.
Qui dit qu'au bout du troisième verre, on commence à voir des choses étranges et merveilleuses.
C'est ça, exactement.
Troisième verre.
Il y a des pièces de théâtre sur l'absinthe, il y a des... Il y a des poèmes, il y a beaucoup de textes sur l'absinthe. Marie-Claude Delahaye a édité d'ailleurs un livre très intéressant sur Absinthe, la muse des poètes. Très très beau livre où vous avez vraiment des textes d'auteurs de l'époque qui sont vraiment croustillants des fois, et en tout cas très poétiques.
Ouais, nous sommes toujours bien sur IDFM Radio à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Julien et Ghislain, gérants du musée de l'absinthe à Auvers, qui continuent de nous raconter l'histoire de la fée verte après cette chanson de Serge Gainsbourg intitulée « Variation sur Marie-Lou ». On écoute.
Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches aux menthols entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis, je lis le vice et je pense à Carole Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches ointoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carroll. Son regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant à cordes cartes.
Alors nous retrouvons Julien Ghislain, gérant du musée de l'absinthe à Auvers, qui nous raconte maintenant la mort de la fée verte. Moment tragique.
Donc l'absinthe va être donc très populaire au moment de la bourgeoisie jusqu'en 1870. Et la fin de la fée verte, c'est entre 1870 et 1915. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 45 ans? On va avoir de plus en plus l'absinthe décriée, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'à l'intérieur de la plante, vous avez une molécule qui s'appelle la thuyone, qui est une molécule énergisante, elle est plutôt bonne pour la santé à petite dose. Mais chez l'alcoolique chronique, qui boit donc beaucoup, beaucoup trop d'absinthe, mais à l'époque, on buvait beaucoup, beaucoup trop d'alcool en soi, va provoquer chez ces alcooliques-là de l'hypersensibilité dans les membres, des crampes dans les jambes, ça c'est pour le côté plus infime, puis après, ça peut provoquer des convulsions et des crises épileptiques. Donc ça, c'est une des premières raisons de la fin de la fée verte, et tout ça parce qu'en 1870, qu'est-ce qui se passe en France et dans le monde en général? Il y a la révolution industrielle. Donc les ouvriers vont commencer à boire de plus en plus et vont adopter cette boisson qui est fraîche, qui se boit frais contrairement au vin. Et on la trouve dans les bars. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bars à l'époque. Il y en a 480 000 en 1890. Ça correspond à un bar pour 80 habitants, enfants compris bien sûr. Donc on boit beaucoup. On boit beaucoup sur les grands boulevards. On boit beaucoup sur les grands boulevards et on va... Et les ouvriers vont s'accaparer cette boisson. Et avec cette thuyonne, c'est la première cause de l'interdiction en 1915. Mais il y a aussi l'alcoolisme, parce qu'on va boire de plus en plus, et de plus en plus de la mauvaise absinthe.
Oui, il va y avoir des absinthes un peu folatées qui vont circuler à ce moment-là, et du coup, ça va augmenter le nombre de problèmes liés à justement la consommation de cet alcool. Oui.
Tout le monde peut ouvrir un bar, et tout le monde va pouvoir faire son absinthe dans son arrière-cour, oui, et mélanger toutes sortes de plantes et les appeler des absinthes. Et ça va causer vraiment beaucoup de dégâts. Et la troisième raison de la fin de la fée verte...
Celle-là, elle me plaît beaucoup.
Oui, sans être un conspirateur.
C'est qu'en 1870, il va y avoir une grosse crise du vin. On va abattre beaucoup de vignes à cause de plusieurs maladies, dont le mildiou. Et on va faire venir des vignes américaines qui vont surproduire. En même temps, à cause de l'absinthe, on va sous-consommer le vin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelques années plus tard, le temps que les vignes poussent, les viticulteurs vont être sur la paille dans plusieurs années parce que l'absinthe va supplanter le vin et on va boire de moins en moins de vin. Alors, que vont faire les viticulteurs? Ils vont s'associer avec la Ligue anti-alcoolique, ça c'est formidable, oui, pour créer des pétitions et faire une campagne pour faire interdire l'absinthe. Vous avez en même temps les publicités, comme on a évoqué tout à l'heure, pour boire de l'absinthe avec des femmes affriolantes dans l'érotisme pour vous inviter à boire. Et en même temps, vous avez des campagnes qui vous montrent les dégâts. Donc avec, si vous prenez de l'absinthe, c'est un omnibus pour Charenton, donc directement à l'asile.
La folie, ouais.
Vous avez des cartes postales éditées où vous voyez un homme battre sa femme, parce que quand on boit, on bat sa femme.
Elle est horrible celle-là.
Et vous avez une pétition qui a été signée par 300 000 personnes pour interdire l'absinthe pour le vin. Donc il y a vraiment toute une campagne qui va mener tambour battant et qui va réussir à interdire l'absinthe.
Y compris dans les écoles, puisqu'on on affichait des scènes où on voyait... Des parents alcooliques, enfin absintiques.
Oui, absintiques, tout à fait, c'est le mot. Ouais.
Et enfants épileptiques.
Exactement.
Donc un slogan résumé de façon très très nette dans un très beau graphique. Et puis alors, il y a aussi quelque chose d'un petit peu cruel. C'est un tableau qui représente Victorine, la célèbre muse, on va dire, de Manet, dans son déjeuner sur l'Olympe et, sur l'herbe et son Olympia.
Son Olympia, oui.
Et malheureusement, Victorine a pris quelques années et beaucoup, beaucoup d'absinthe. Et c'est loin d'être la belle jeune fille de départ.
Mais c'est ça,
c'est assez cruel.
Quand vous voyez, on a presque, on va dire, 95% d'œuvres originales dans le musée. Mais sur ce tableau-là, c'est une reproduction qu'on a d'un tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts à Quimper. Et donc, dans ce tableau-là, vous avez Victorine qui est âgée de 60 ans, qui honnêtement en paraît beaucoup plus.
Oui, 20 de plus.
Et qui a un verre d'absinthe devant elle. Et elle est entourée 3-4 personnes autour d'elle à table, mais c'est la seule qui boit une absinthe. Les autres, ce sont des hommes, ils ne boivent pas d'absinthe. Donc elle était vraiment...
Alcoolique.
Absintique. Et la belle Victorine, elle n'est plus vraiment très belle à ce moment-là.
Alors, il y a aussi des tentatives, disons, qu'on pourrait appeler aujourd'hui des fake news sanitaires avec l'absinthe oxygénée. Alors, ça, c'est marrant.
Oui. l'absinthe oxygénée, c'est vrai. C'est effectivement, comme vous venez de le résumer, l'idée qu'on peut se faire de quelque chose de totalement faux. C'est-à-dire que on parle quand même de l'alcool. Donc, en vrai, l'alcool, on sait bien tous que si on en abuse, c'est pas forcément bon pour la santé. Et à l'époque, il fallait se dénoter pour se dire, attention, moi, la mienne, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle est bonne pour la santé parce que, vous allez voir, on va faire multiplier les globules. Ça va être bon pour votre santé et vous allez, en plus, boire une très bonne absinthe. Évidemment, c'était archi faux.
C'est du marketing.
C'est du marketing, ouais, c'est ça.
Qui utilise un discours médical, piraté, on va dire, faux.
Complètement.
Complètement.
C'est l'exemple même d'un détournement, oui, bien sûr.
Alors, autre pièce. Alors là, franchement, j'étais vraiment très, très content de la voir. C'est une reproduction de la tapisserie de l'Apocalypse, qui est exposée au château d'Angers. Et donc, il est rappelé dans cette tapisserie que l'Apocalypse, selon saint Jean, chapitre 8, versets 10 et 11, je cite, c'est très court, Le troisième ange sonna la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et alors, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. C'est incroyable.
C'est fou.
Mais alors, le plus incroyable, alors là, franchement, c'est que cette prophétie de l'Apocalypse est troublante parce que si l'on sait qu'en ukrainien, je sais pas où vous êtes allé chercher ça,
c'est Marie-Claude, nous on n'est pas responsable, mais c'est vrai que c'est à l'entrée du musée, donc on commence un peu ça, son visite comme ça.
En ukrainien, un des noms de l'absinthe, c'est, alors là c'est incroyable, Tchernobyl.
Ouais.
Ouais, c'est assez impressionnant.
Pour le coup, c'est très prophétique. Ouais.
C'est très prophétique. C'est annoncé déjà depuis l'Apocalypse.
En fait, l'absinthe a cette... Là, on reparle de la plante, mais l'absinthe plante a ce côté de ange et démon, de fée et de sorcière.
De dualité.
Dualité, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est très bonne contre la fièvre, les maux de ventre, les maux d'estomac, et contre la fièvre notamment, et pour la régulation des menstruations. Mais en même temps, si vous prenez trop d'absinthe en sirop en tisane, elle permet l'avortement. Elle est abortive, donc elle a ce côté bien et mauvais. Puis si on en prend trop, même en tisane, avec l'effet de la thuyone, on a beaucoup de gens, notamment au Maroc, on prend beaucoup de tisane à base d'absinthe pour donner de l'énergie. Mais au bout d'un moment, j'avais une Marocaine la dernière fois qui a visité le musée, qui nous expliquait, une fois j'en ai bu un peu trop, je me sentais vraiment pas bien. Donc elle a un côté un peu comme tout. Mais un côté un peu mal et bien à la fois.
Consommer avec modération.
La plante et soit. L'alcool aussi.
Voilà, les deux. Ouais.
Alors, pour en revenir à l'interdiction de l'absinthe, alors on représente l'absinthe comme une sorcière qui va être brûlée en place publique, comme au bon temps, non pas du Moyen-Âge, mais plutôt 16e, 17e.
C'est-à-dire, oui, c'est ça.
La fée verte brûlée.
La fée est d'abord une fée verte, et puis quand on veut commencer à la détruire, en Suisse... Ou en France, on va la représenter comme une sorcière, une femme. En tout cas, elle est souvent nue, ou en tout cas dangereuse. Et il y a une affiche dans le musée, une affiche suisse. Parce que
j'adore.
L'absinthe a été interdite en Suisse en 1910, donc 5 ans avant la France, pour plusieurs raisons, les mêmes, mais un autre fait divers que Justin pourra peut-être raconter après s'il souhaite.
On n'a pas le temps.
On n'a pas le temps.
Désolé, il faudra aller au musée pour longtemps.
Très bien. Il racontera la prochaine fois au musée.
Venez nous voir au musée.
Et donc, dans cette affiche, on voit la fée verte, une croix plantée dans le cœur par le prédicateur, par l'homme de foi qui représente la Suisse.
Et alors, la petite légende, c'est la suppression de l'absinthe. C'est l'événement le plus important pour la Suisse depuis le XIIIe siècle.
Ouais, bah oui.
Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Mais une fée ne meurt jamais, n'est-ce pas?
Non, elle va
raconter
ressusciter.
La résurrection.
La résurrection. Alors, la résurrection, elle a été réautorisée en France officiellement en 2010, en Suisse en 2005 d'ailleurs.
Oui, mais alors pourquoi? C'est ça qui est bien aussi.
Pourquoi? Alors, ça a commencé, on a d'abord réautorisé la thuyone. Donc, la thuyone, on avait donc interdit en 1915 toute boisson à base d'absinthe. Et donc, l'absinthe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle a thuyone, la molécule à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de la plante. Et en 88, c'est Michel Rocard, le gouvernement de Michel Rocard, qui réautorise la thuyone dans l'alimentation et les boissons, à partir du moment où celle-ci n'excède pas 35 mg par litre. Avant, c'était 300 mg par litre. Donc, on la divise pratiquement par 10. Donc là, tout le monde s'est dit, super, la thuyone est autorisée, on va pouvoir refaire de l'absinthe. Sauf que la loi de 1915 n'a pas été abrogée. Donc on va créer des absinthes ou des jeux de mots pour ne pas dire le mot absinthe et à base de plantes d'absinthe. On ne pourra pas l'appeler absinthe.
Avec quand même le portrait de Van Gogh un petit peu déjanté.
Oui, par exemple, absinthe avec le portrait de Van Gogh. Et puis il y aura d'autres marques comme ça. Et puis petit à petit, en 2010, sous la concurrence suisse qui a autorisé l'absinthe en 2005 et d'autres concurrences des pays de l'Est notamment, les distillateurs vont faire pression et c'est le gouvernement de François Fillon qui va, sous la pression, dire « Bon, on abroge la loi de 1915 ». La loi a été abrogée et du coup, on peut en refaire des absinthes. Voilà. Mais toujours avec cette thuyone divisée par 10. Hein.
Voilà. Oui.
Voilà, notre émission se termine déjà. Je vous avais dit, ça passe très, très vite. Alors, rendez-vous au musée de l'absinthe. Alors, ouvert beaucoup plus souvent qu'avant.
Il est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h et jusqu'à 19h le dimanche et jusqu'à 20h le vendredi samedi.
Voilà, avec le bar qui est ouvert.
Et le bar,
jusqu'à 20h le samedi, je crois.
C'est ça. Et le bar, vous pouvez boire des absinthes, mais vous pouvez boire aussi des cafés, des thés et d'autres boissons. Hein.
Voilà. Des planches, etc. Voilà. Et des très bonnes madeleines à l'absinthe.
Et des cookies à l'absinthe aussi.
Absolument.
dans son regard absent et son iris absinthe.
Tandis que ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré au musée de l'absinthe à Auvers. Ghislain et Julien, merci beaucoup. Et
merci à vous.
Franchement, les auditeurs, ne manquez pas ce rendez-vous qui est absolument fabuleux. Voilà.
Merci.
C'était Didier pour un rendez-vous compte à retrouver en podcast sur le site de la radio. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM, évidemment.